Bonjour à tous. Après plus d'un mois de confinement, plusieurs auteurs de la région nous font part de leur vécu, de leurs réflexions sur cet événement qui nous impacte tous. Aujourd'hui, pour cette 4e émission, nous remercions pour leur libre participation Béatrice Nicodème, Laurent Fréour et Catherine École-Boivin.
Alors, comment je vis ce confinement ? Sur un plan personnel, moi, je considère vraiment que j'ai beaucoup de chance et je suis une des dernières personnes qui pourrait m'en plaindre, en ce sens que j'habite dans une petite maison avec un jardin, donc je peux sortir quand je veux, j'ai des contacts avec mes voisins par-dessus la haie, ça n'a l'air de rien, mais quand on est seul toute la journée chez soi, c'est très agréable de pouvoir plaisanter, on a même pris une fois un apéritif de jardin à jardin. Je peux, en me baladant, être très vite dans la campagne, donc vraiment pour moi la vie quotidienne n'est absolument pas, n'est très peu perturbée par ce confinement. La difficulté, c'est bien sûr de ne pas pouvoir voir ses amis, de ne pas voir sa famille, de se faire un apéritif sur Skype le jour de Pâques, de ne plus avoir les activités régulières qu'on a. Donc moi je chante dans un chœur, toutes les semaines on a des répétitions, on avait prévu un concert pour le mois d'avril, tout ça s'est évidemment stoppé. Donc oui, il y a un confinement, c'est certain, du moins une restriction d'activité. Mais par rapport à mon programme de mes journées habituelles, ma vie a très très peu changé puisque j'écris chez moi, c'est mon activité principale, donc je suis habituée à passer des journées entières chez moi à travailler, parfois sans voir personne de la journée. Donc en fait, je vis comme d'habitude quasiment. Je me lève à la même heure, je me pose même pas la question de me dire « Oh là là, j'ai toutes mes journées, je peux peut-être prendre mon temps ». Non, je me lève le bonne heure le matin comme d'habitude, je me mets au travail, je fais des pauses dans la journée. Enfin, c'est vraiment un rythme de vie quotidien tout à fait habituel. Il y a des aspects positifs, pour moi en tout cas, que je ressens. C'est-à-dire que s'il y a la privation d'activité extérieure, il y a aussi beaucoup de temps économisé, beaucoup de temps gagné, pas de rendez-vous à l'extérieur, et donc une grande disponibilité pour l'écriture, qui est quand même mon activité principale et ma passion. Donc voilà, mes journées sont extrêmement remplies, et je m'étonne toujours de voir des gens qui s'ennuient, et de voir des conseils sur Internet, comment occuper le confinement, parce que personnellement, j'ai jamais réussi à m'ennuyer, même quand je travaille pas, je trouve toujours à m'occuper. Que ce soit des activités physiques, sportives, ménagères, de lecture, artistiques, voilà. Donc vraiment, sur tous ces plans-là, je souffre pas du confinement. Là où on en souffre, comme tout le monde, c'est cette espèce d'angoisse rampante, déjà pour le présent, pour les gens qui sont malades, gravement malades, pour les personnes qui doivent travailler dans des conditions souvent extrêmement pénibles et en prenant des risques. Pour l'avenir aussi, l'avenir, quand je dis économique, c'est pas l'économie qui me préoccupe, mais c'est que chacun puisse retrouver son travail. Je pense aux personnes qui ont créé une petite entreprise et qui vont peut-être pas pouvoir s'en sortir. Je pense beaucoup aux jeunes qui débutent et qui ont besoin vraiment de s'investir et de démarrer une activité et qui tout d'un coup sont stoppés et qui n'ont pas qui vont peut-être perdre énormément dans cette histoire. Donc tout ça c'est angoissant à la fois sur la vie des gens qu'ils restent en vie, à la fois sur l'avenir et puis je pense à tous les gens qui vivent le confinement dans des conditions terribles. Soit dans des petits espaces, dans des appartements insalubres. Je pense aux personnes qui n'ont pas de ressources, enfin qui perdent momentanément une partie de leur emploi, de leur travail, de leur et qui n'ont aucune aide, qui ne savent pas vers où se tourner pour obtenir de l'aide. Donc tout ça est très 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 angoissant, extrêmement pénible, et la brutalité aussi de ce qui nous est arrivé, même si on le sentait venir, on nous a beaucoup dit « non, ce n'est pas si grave, non, on ne sera pas dans une situation inquiétante », et finalement on se trouve dans une situation dramatique, avec un avenir quand même très inquiétant. Donc voilà, pour moi, le confinement, c'est cette période est très, très, très. Il y a à fois de l'excellent pour moi dans ma vie quotidienne et vraiment une très grosse angoisse pour le présent, pour beaucoup et pour l'avenir. Voilà, alors justement, bah, si vous me demandez comment je vois l'avenir, pour l'instant, je le vois, c'est très difficile de le voir. Là encore, il peut y avoir énormément de positifs comme énormément de négatifs. Le positif, eh bien, c'est que depuis plusieurs années, ça fait quand même très longtemps, on se dit que le mode de vie actuel, la façon dont fonctionne l'économie, le monde du travail, on sait que tout ça est un peu une machine lancée à toute vitesse qu'on n'arrive pas à arrêter, qui court à une catastrophe, qui de toute façon n'utilise certainement pas la bonne formule parce qu'il y a trop de gens qui sont laissés sur le bord de la route, qui sont malheureux dans leur travail, il y a des suicides au travail, il y a des parties, enfin une part énorme de population qui n'ont pas le minimum. Il y a aussi les inégalités entre les différents pays, entre les différents continents. Enfin bon, on va pas. Je ne peux pas détailler tout ça, tout le monde le sait. Et donc tout ça, on le sait depuis très longtemps. Et on disait toujours, il faudrait absolument renverser la vapeur, il faut trouver d'autres modes de vie, d'autres modes de travail, d'autres modèles économiques. Mais comment faire? Et souvent, on disait, il faudrait qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un événement qui oblige vraiment à tout repenser, à tout remettre à plat, à voir ce qui ne va pas dans notre mode de vie et dans notre mode de fonctionnement, pour redémarrer sur des nouvelles bases, même si, évidemment, ça implique une période de chaos et de crise très grave. Bon, là, on peut penser que ce déclic dont je parlais, et cette crise qui vous tombe dessus et qui vous oblige à réagir, on peut se dire qu'elle est là. Et d'une certaine façon, on peut même se dire que cette pandémie n'arrive pas maintenant par hasard, elle arrive maintenant parce que c'est le moment, parce que c'est là qu'il faut vraiment qu'on réagisse. Et que d'une certaine façon, ça peut avoir un effet salutaire, parce que ça peut nous obliger vraiment à tout revoir, comme je le disais, à repartir sur des nouvelles bases. Voilà, tout ça, donc tout le monde le sait, je crois. C'est pas la peine, je vais pas enfoncer des portes ouvertes. Donc, il y a un certain espoir parce qu'on se rend compte que énormément de personnes sont conscientes des conséquences que peut avoir cette crise et justement des décisions qu'il faudrait prendre. Alors, de ce côté-là, j'ai un certain optimisme parce que j'ai l'impression vraiment que des comportements très différents voient le jour. Il y a une entraide, une solidarité très importante, même s'il y a aussi des comportements vraiment pitoyables et vraiment dont on peut avoir honte en tant qu'être humain. Mais il y a énormément de comportements très positifs, des échanges de services, de la solidarité. Il y a aussi beaucoup de personnes retrouvent le contact avec la nature. Se remettre à vivre, comment dirais-je, mais plus en famille, par exemple, à échanger, à avoir des activités ensemble, à découvrir de nouvelles choses ensemble, à renouer un contact qui était un peu coupé par cette vie trépidante qu'on a tous, à nouveau à s'occuper avec peu de choses, par exemple, sans forcément aller au cinéma, faire des grands voyages, dépenser énormément d'argent. Mais à retrouver des activités créatrices comme on pouvait avoir autrefois quand il n'y avait pas tous les modes de communication actuels. Et bon, bah, la veillée au coin du feu, c'était un moment où la famille se retrouvait, échangeait, où on faisait connaissance d'une certaine façon. Et c'était un gros soutien pour les personnes qui étaient en difficulté psychologique, qui avaient vraiment, et un échange de maison à maison. Voilà, tout ça, on le retrouve un petit peu du fait qu'on a beaucoup de temps, qu'on est chez soi, qu'on est privé d'un certain nombre d'activités extérieures. On va plus au cinéma, on va plus au spectacle, on va plus au restaurant. Et du coup, on retrouve une vie plus naturelle et je pense que retrouver tout ça, ça peut donner des envies de continuer après, une fois que la pandémie sera, qu'on sera vraiment libéré de cette pandémie, qu'on en sortira, j'espère qu'on en sortira le mieux possible. Mais voilà, développer toutes ces choses qui avaient un petit peu disparu. Donc tout ça, moi, je trouve ça extrêmement positif et très encourageant. Par contre, est-ce que vraiment l'effet va être durable? C'est la chose qu'on craint toujours. J'ai un peu peur que quand la vie redeviendra normale, entre guillemets, qu'on pourra à nouveau courir comme avant, prendre l'avion quand on veut, être sur les routes, voilà, reprendre cette vie un peu de fou qu'on a et qui ne fait qu'empirer de décennie en décennie. Voilà, est-ce qu'on va garder en mémoire tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a revécu pendant la période de confinement? Voilà, bah ça c'est le point d'interrogation, hein. Donc moi je vais avoir confiance, je vais être optimiste, mais je ne suis pas complètement optimiste. En plus, il faut que comment dirais-je, que les gouvernants aient la même conception des choses, parce qu'on est quand même pris dans des obligations, on ne choisit pas complètement notre façon de vivre. Donc, est-ce que ce désir de retrouver une vie plus humaine, plus naturelle, va remonter si haut? Ça non plus, j'en suis pas du tout convaincue. Donc voilà, c'est ça mon inquiétude. Donc toujours pareil, hein, comme le confinement et ses conséquences, et ben à la fois beaucoup d'optimisme, mais beaucoup d'inquiétude aussi. Voilà. Est-ce que cette période qui est quand même très étrange, hein, et dont on mesure pas bien les conséquences et les effets à long terme tant qu'on est dedans, hein, c'est toujours pareil. C'est comme quand on est malade, on est à l'hôpital, y a beaucoup d'angoisse. Il y a aussi parfois un aspect positif qui est: ah, je n'ai plus à me prendre en charge, tout le monde s'occupe de moi, je me laisse aller. Donc parfois, si on n'a pas d'inquiétude pour sa vie, c'est quelque chose qui peut être un petit peu sécurisant. On rentre dans une sorte de cocon. Donc il y a à la fois le positif, le négatif. Et puis quand on en sort, on réagit, on réalise pas bien tout de suite ce qui vous est arrivé et quelles vont être les conséquences dans votre vie. Donc je crois que là, c'est un peu la même chose, on ne sait pas très bien. Sur ma façon de travailler, pareil, je suis incapable de voir maintenant quelles répercussions il pourra y avoir. A priori, je vois pas tellement sur la façon de travailler en elle-même quelles pourraient être les conséquences, mais j'en sais rien parce que les grandes crises comme ça et les grands bouleversements déclenchent toujours un travail de fond, un travail aussi bien sur l'inconscient. Et il faut du temps pour voir les conséquences. Donc voilà, là on est en plein dedans, hein. On est dans le maelstrom. Donc wait and see. Je veux rester optimiste. Je le suis pas complètement, loin de là. Donc je crois qu'il faut qu'on soit tous vigilants maintenant et après, quand la situation s'améliorera, quand tout sera réglé, ce que j'espère, être vraiment vigilant pour essayer d'en tirer que les conséquences positives. C'est vraiment là-dessus que je veux terminer parce que c'est dans la suite qu'on verra si cette pandémie a été pour un bien au fond, malgré tous les drames, ou si vraiment on n'a pas su en tirer tout ce qu'on pouvait en tirer.
Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux plus rencontrer physiquement mes lecteurs. Je suis donc heureux de vous retrouver dans l'émission de Daniel. Daniel qui avait eu la gentillesse de m'accueillir à l'antenne d'Alternante l'année dernière. C'est avec plaisir que je vais essayer de répondre aux quelques questions que Daniel m'a posées. Par exemple, comment je vis ce confinement, familialement et professionnellement? Quel regard je porte sur cette période exceptionnelle? Que m'inspire-t-elle? Comment je vois l'avenir? Est-ce que le confinement change quelque chose quand on est auteur? Bon. Alors, comment je vis ce confinement, familialement et professionnellement? Bah, plutôt bien. Ma fille, qui fait ses études au Danemark, est revenue à la maison juste avant la fermeture des frontières danoises. Ma femme a mis son activité entre parenthèses. Je les ai donc toutes les deux avec moi à temps plein et nous passons de bons moments. Aussi souvent et aussi longtemps, ce n'était pas arrivé depuis un bon moment. Mes autres enfants, plus loin, mes petits-enfants me manquent. Et même si ça ne remplace pas le contact physique, le lien est maintenu grâce à la visio. La technologie, pour le meilleur et pour le pire, en tout cas en ce moment, c'est plutôt pour le meilleur. Professionnellement, le confinement pour moi, eh bien, je suis salarié d'une grande entreprise et j'ai la chance d'être en cessation progressive d'activité déjà depuis un petit moment, ce qu'on appelle un plan de fin de carrière. J'ai donc stoppé depuis presque 3 ans la course infernale que génère souvent la vie professionnelle. Comme tous, avec le confinement, même si professionnellement c'est beaucoup plus calme pour moi maintenant, comme tous, ma vie, je l'ai mise aussi sur pause. J'avais donc déjà du temps depuis un moment, aujourd'hui j'en ai encore plus. Alors, je me suis remis au sport, j'en avais besoin, tous les matins, 4 km sur mon tapis de course, ça fait du bien au corps. En ces temps de confinement, où l'on cuisine un peu plus que d'habitude, où l'on mange peut-être un peu plus ou un peu plus souvent, et où tout est prétexte à un petit apéro en famille ou par caméra interposée avec les amis ou le reste de la famille. Tous, désormais, nous avons davantage de temps. Tous, excepté, et j'en oublie certainement, ceux qui nous soignent, qui nous nourrissent ou qui collectent nos déchets. Combien de fois avant aujourd'hui nous avons dit « Ah, si j'avais le temps », bah ça y est, nous y sommes, nous l'avons ce temps. Et ça peut nous faire peur. Le temps d'une parenthèse, anormale, angoissante, mais qui sait, positive. Nous avons le temps. Pour certains, certaines, le temps d'apprivoiser la solitude, de poser la tête sur l'épaule de celle ou de celui qu'on aime, de réfléchir à sa vie, à ses réussites, à ses échecs, à son boulot, plus ou moins utile, qu'on pense vouloir changer. En tout cas, cette période permet de réfléchir à comment on pourrait travailler différemment ensuite. Le temps de penser à son enfance, de cultiver son jardin, en réfléchissant à un début d'autosuffisance alimentaire. Le temps de saluer ses voisins sur le balcon d'en face, ceux qu'on croise habituellement, sans les voir, le temps de se remettre à la guitare de ses 20 ans, restée depuis si longtemps au placard. Le temps de coudre des masques pour l'association locale, de jouer avec ses enfants en pleine journée plutôt que de les retrouver couchés en rentrant le soir du boulot. Le temps de réapprendre à cuisiner, à redécouvrir les paroles d'une chanson autrefois fredonnée. Le temps d'être reconnaissant pour ceux et celles qui sont en première ligne pour nous soigner, nourrir, protéger, ceux qu'on oublie si souvent. Le temps d'être triste en pensant aux femmes et aux hommes exposés au Covid-19 et partis trop tôt. Le temps de se sentir orphelin après le départ de Manu Dibango ou de Christophe. Ceux, eux, qui nous rappellent nos belles années. Eux, ceux qui nous rappellent le temps d'avant. Le temps de se remettre à penser à l'après, pour soi et pour le reste du monde. Que m'inspire cette période spéciale? Comment je vois l'avenir? Bah pour moi, comme pour vous sans doute, cette période oblige à réfléchir encore plus à ce qui nous arrive. Et je me dis, si ce virus qui nous fait manquer d'air était là justement pour nous redonner la vue. Et si la nature faisait sa loi et reprenait ses droits en nous rappelant que nous, humains, colosses aux pieds d'argile, ne sommes ici que de passage. Et si ce virus, contrairement à la misère, nous prouvait que nous sommes tous dans le même bateau, que nous sommes semblables et devons être solidaires. Que riches, puissants ou pauvres, nous sommes tous mortels. D'ailleurs, l'actualité nous le rappelle. Et si ce virus, pendant que le CAC 40 est en quarantaine, nous rappelait aussi ce qui est vraiment essentiel? Par exemple, comment nous, apprentis sorciers, avons joué avec la nature, détruit des forêts pour l'agriculture intensive ou l'exploitation minière? Comment nous, apprentis sorciers, avons mis des animaux sauvages en contact avec des animaux d'élevage? Comment nous, apprentis sorciers, avons maltraité les écosystèmes, bousculé les grands équilibres naturels? Pour ma part, je pense qu'en affaiblissant la nature, nous nous affaiblissons aussi nous-mêmes. Nous affaiblissons notre capacité à résister, à nous adapter aux maladies, aux catastrophes, en courant, toujours et encore, dans une espèce de fuite en avant. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec tout ce qu'on risque de perdre? Ce qu'on risque de perdre, bah déjà, on l'a perdu en partie, c'est la liberté d'embrasser ses amis ou ses parents âgés. Moi, je ne peux plus voir ma mère qui est en maison de retraite depuis plus d'un mois, d'assister à des concerts, de boire un pot à la terrasse d'un café, alors que les beaux jours sont là, de participer, pour moi auteur, à des salons du livre et d'y faire de belles rencontres, comme j'aimais tant faire avant. Perdre en liberté, nous risquons d'en perdre encore aussi plus tard et peut-être plus longtemps que l'on pense, si nous ne sommes pas vigilants et un tant soit peu critiques envers ceux qui nous gouvernent. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut gagner avec tout ce qu'on va perdre? Ben, je pense gagner déjà en lucidité. Mieux savoir ce qu'on veut ou ne veut pas pour soi, pour son avenir, professionnel ou sa vie, pour mieux tenter d'éviter que tout cela ne se reproduise, pour mieux faire face la prochaine fois, individuellement, collectivement. Réfléchir, car si après rien ne change, il y a toutes les chances que cela se reproduise, une nouvelle catastrophe, climatique ou sanitaire, toujours et encore plus dure. Que change le confinement quand on est auteur? Pour ma part, quand j'écris, je suis déjà confiné dans ma bulle. J'ai besoin d'être concentré, à l'écart du tumulte, pour faire vivre mes personnages, mes environnements et mes énigmes. Mais paradoxalement, durant cette période spéciale, je n'écris plus, je n'y arrive plus. Comme si, étant forcé de rester enfermé, cela tarissait mes sources d'inspiration. Comme si la contrainte de ce confinement bloquait ma plume. Un état un peu bizarre. Je me découvre un besoin irrésistible d'être dehors, au grand air, dans mon jardin. J'y trouve mille occupations que je ne voyais pas avant. Regarder la végétation s'épanouir en ces beaux jours, construire des jardinières avec des chutes de bois que j'avais conservées, les fameux ça peut servir. Faire des semis avec les graines de l'année dernière. Réparer la tondeuse qui, depuis si longtemps, fait un drôle de bruit. Je suis auteur et après L'Orange sanguine, Les naufragés du navire de Pierre, mon troisième roman Rouge Grenat, a été publié juste avant le confinement. Je suis auteur et je n'ai pas pu faire les dédicaces prévues. Je n'ai pas pu participer au salon du livre programmé. Tous ces rendez-vous avec les lecteurs pour lesquels je me faisais une joie. Je ne peux plus rencontrer mes amis des romanciers nantais avec qui je passe de si bons moments. Depuis la publication de ce dernier ouvrage qui est resté en stand-by, finalement, peu de lecteurs ont pu se le procurer et bien peu sont encore ceux qui lisent des e-books, alors effectivement directement téléchargeables, mais bon, les adeptes du livre papier restent très majoritaires. L'écriture de mon quatrième ouvrage n'a que peu avancé, mais cette histoire, où l'humain sera encore plus présent que dans mes autres romans, elle reste bien présente dans ma tête. Je prends ce temps de jachère dans l'écriture comme une forme de gestation. Je ne crois pas perdre du temps. Le confinement a provisoirement tari mon inspiration, certes, mais ce qui me manque le plus est de retrouver physiquement les lecteurs. Ce qui me manque le plus, ce sont ces moments de partage qui donnent du sens à l'écriture. J'évoquais tout à l'heure le temps d'après. Quel avenir? Chacun à sa façon. Vous comme moi, on va tous tirer un enseignement de cette période spéciale. Cela peut d'ailleurs devenir le bien du mal que nous subissons, que nous vivons. En ce qui me concerne, mais j'y avais déjà pensé avant cette crise sanitaire et ce confinement, Moi, cette période particulière est pour moi un accélérateur de décision. Ce à quoi j'avais pensé et que je vais mettre en œuvre avec ma famille sans doute beaucoup plus vite que prévu, ça sera le temps du retour à la nature, à une vie plus simple, près de la mer et des forêts, à Mesquer, où j'ai la chance d'avoir une maison. Je pense moins me déplacer, moins consommer, gagner en liberté et dans une autre mesure en bonheur. Je vais semer, planter, tenter de me nourrir tout ou partie grâce à la permaculture que j'expérimente déjà depuis 2 ans. Je vais construire un poulailler, je vais récupérer l'eau de puits, je vais produire une partie de mon électricité. Je vais partager des fruits et des légumes et de petits services avec mes voisins. Je vais certainement mieux profiter de mes proches et bien sûr encore et toujours écrire. Mais cette fois écrire face au marais salant de Mesquer. Écrire en respirant l'air marin. Écrire en étant connecté à la nature. Écrire avec plus de sérénité et d'optimisme en l'avenir. À l'avenir, je vais m'efforcer d'être plus conscient de ceux et de ceux qui m'entourent, de tenter de gagner en sagesse, bref, plein de beaux challenges. Je ne doute pas que vous aussi, que chacun de nous, à notre façon, nous trouverons une nouvelle voie pour un avenir meilleur, différent. Toutes et tous, nous avons notre avenir en main. Nous sommes nombreux à avoir le choix qu'il soit meilleur. Nous sommes nombreux parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix. Mais quand on a le choix, il faut en profiter. Et souvent, on n'en profite pas pour agir sur sa vie. Merci à Daniel. Merci à toutes et tous. C'est vrai que cette façon de partager mes pensées face à mon micro et sans avoir les auditeurs en direct est un peu différente d'habituellement. J'espère que mes propos ont été à peu près clairs. J'ai tenté de répondre aux quelques questions que Daniel m'a posées. Encore une fois, je le remercie de son invitation. Je vous dis à toutes et tous à bientôt et surtout prenez soin de vous. Au revoir.
Bonjour alternante, cher Daniel, vous me demandez comment je vis le confinement professionnellement et familialement. Comme écrivain, rien ne change vraiment. Je vis avec mes personnages dans un monde à part, entre vie réelle et créative. Un peu confinée dans mes mots. Je vis en pays de Ré, dans une maison avec un jardin. Je souffre toutefois de ne pas pouvoir sortir mon vélo, aller dans le marais et voir la mer avec lui. Au niveau familial, mes 4 enfants sont grands et autonomes. Ils font partie de ceux qui travaillent ou télétravaillent. Je m'inquiète bien sûr pour eux. Une de mes filles, dans une autre agence bancaire que la sienne, où elle a dû remplacer des personnes malades de la Covid-19, a été atteinte à son tour, mais sans gravité apparente. Je précise que son compagnon, qui est infirmier, n'a pas même été testé alors qu'il travaille aux urgences. Quand mon mari part au travail, un jour sur deux, j'ai le cœur brisé, vraiment. Hein. Mais il est très prudent et n'est pas de nature à s'inquiéter. Je sais que certains couples sont malheureux de vivre H24 ensemble. Alors là, j'en suis navrée pour eux. L'endroit où nous vivons devrait être un endroit d'amour et non de haine. Je ne pense pas que ce soit le confinement qui puisse détruire une relation. Bien au contraire, je pense qu'à la base, ces gens se forcent à vivre ensemble. L'amour a à voir avec une certaine forme de courage. L'amour ensemble, l'amour à deux. Et l'amour familial. Et si la haine, la brutalité, la méchanceté réussit à s'immiscer en temps de crise grave comme cette pandémie et fait naître des tensions ou de la barbarie, c'est assez révoltant. Je pense que ce confinement, comme au temps des vacances, devrait être un moment cocon, un moment de paix ou de tendresse envers tous ceux qui sont importants dans notre vie. Ça n'a rien à voir avec l'argent ou quelque chose qu'on dépenserait. Ce sont des sentiments gratuits au fond. Chaque soir, j'ai une pensée pour tous les malades et les familles douloureusement touchées par ce virus. Vraiment, vraiment, j'y pense tout le temps. Comme professeur, Daniel, c'est beaucoup plus compliqué de vous raconter mon confinement. C'est mon second métier. C'est difficile pour moi de parler de ça, car j'ai été agressée par un élève et par une gestion de cette agression parfois chaotique. C'était en début d'année scolaire, en 2019. Et je n'ai pas repris le lycée depuis lors. Je suis en arrêt d'accident du travail imputable au service. Après cette agression, j'ai été confinée par une incapacité à aller à l'extérieur de ma maison seule, et cela a duré presque 4 mois. Je m'en sors tout juste. J'étais incapable de faire mes courses, de sortir seule ou de sortir tout court. Aussi, je m'étais organisée pour le ravitaillement, car partout où il y avait de la foule, comme les magasins, je ne pouvais plus y aller. Surtout dans les magasins, je ne me l'explique pas. Ce confinement est étrange pour moi. Il est comme une continuité de cette agression. C'est un temps de calme pour retrouver, je l'espère, bientôt mes élèves qui me manquent infiniment, je les salue, et pour retrouver, je l'espère, aussi un autre monde, plus solidaire. Aujourd'hui, je jardine beaucoup, j'écris lentement, j'ai du retard sur mes prochains romans, dont les personnages auront beaucoup encore à nous raconter sur un monde disparu. Je me forme pour mon travail de professeur grâce aux cours en ligne des universités. Je lis des romans, des essais et je cuisine. Daniel, vous me demandez quel regard je porte sur cette période exceptionnelle et comment je vois l'avenir. Même si je suis certaine que la présence de la nature peut à elle seule nous aider à surmonter le confinement, en fait, j'écris ma colère de la gestion de cette pandémie, car ce monde n'est pas à l'arrêt comme beaucoup l'écrivent. Ce monde tient parce qu'il est porté par des travailleurs qui ont les plus bas salaires de France. Les soignants, les caissiers, les gens qui nous livrent, les agriculteurs, j'en oublie beaucoup, beaucoup, mais ils sont là et c'est eux qui portent cette pandémie. Ce monde, égocentré sur Paris et sa région, et cette gestion de crise par des gens médiocres et piètres communicants est très dur à supporter. Ce monde d'aujourd'hui est insupportable. Il y a tellement de bêtises, de violences dans les propos qui se veulent rassurants. On nous donne, on nous reprend, on nous dit quelque chose, on dit le contraire juste après, et en fait les gens ne sont plus capable du tout d'avoir un petit peu de bon sens. Évidemment que les virus sont dans l'air. Depuis toujours, nous le savons, depuis la nuit des temps, il faut porter un masque. C'est pas la peine d'attendre qu'un gouvernement nous le dise. Moi, j'en porte depuis le départ. Des fabriqués en coton avec 3 épaisseurs. Voilà, c'est cette autonomie-là qui me fait peur et que nous attendions comme ça que les politiques nous disent quelque chose alors qu'ils n'y connaissent rien. Toute cette niaiserie m'insupporte et me révolte. Alors, eh bien, en fait, actuellement, eh bien, j'écris ma colère et j'écris tous les soirs cette colère. C'est vrai que je voudrais avoir autre chose que du chagrin à offrir à mes mots, là, aujourd'hui. Je voudrais que pousse entre les lettres de la colère. Autre chose que des larmes. Mais je peux pas tellement faire autrement, parce que je pense que la littérature, comme écrivain, elle doit être politique. Actuellement, j'entends. Dans La Métallo, ou dans le recueil des pensées du paysan Paul Bedel, que j'ai déjà présenté sur votre antenne, Parole d'un paysan, ou dans tous mes livres, je l'ai manié cette colère stérile. J'ai écrit ce monde que l'on nous arrache, cette terre que l'on trahit, cette nature débordante d'amour que l'on saccage. J'ai écrit l'injustice, la joie et la fraternité que l'on nous vole en nous comparant les uns aux autres, en rendant la compétition au rang de valeur suprême. J'ai écrit l'amour en éducation dans Cahier de vie d'une institutrice. Nos mots d'écrivain sont silencieux, je peux écrire... Mais tout ceci ne sert plus à rien. Personne ne nous lit, personne ne nous entend. Il y a devant nous des mythomanes experts qui mentent à chaque parole. Une parole donnée puis retirée. Nous, nous habituons tellement à cette médiocrité de la parole politique et des gens qui sont aux responsabilités que maintenant, plus personne ne se révolte, ne s'indigne. Cette année, j'ai vu des gens éborgnés alors qu'ils demandaient que tout ceci s'arrête, ils portaient ou non un gilet jaune. Ils se révoltaient contre les fermetures d'usines françaises et pendant ce temps-là, le gouvernement rajoutait de l'enfer à l'enfer en vendant Alstom, en vendant les aéroports de Paris aux Chinois dès 2015, en bradant il y a plus de 10 ans nos autoroutes sur lesquelles financièrement on ne peut plus rouler. Elles sont tellement chères, on pense surtout à Nantes-Angers, quoi. Angers et Nantes ne sont pas reliées par une cadoie gratuite. C'est absolument incroyable en Pays de Loire, c'est notre honte, c'est notre honte. J'ai vu en octobre 2019 et en novembre, probablement en décembre, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des soignants, des soignantes, devant les hôpitaux que les CRS ont frappés avec leur matraque. Les CRS leur ont cassé les bras. Ils leur ont brisé les mains. Ce sont des images que nous avons vues. Et là, certains de nos soignants vont mourir là bientôt, mourir d'avoir voulu sauver des gens, mourir de travailler. Vous rendez-vous compte, mourir de travailler, d'aller à son travail. J'ai vu les gens dans les ronds-points de Saint-Nazaire à genoux, supplier les CRS de ne pas leur détruire leur miséreuse cabane où ils rêvaient de solidarité et de fraternité. Voilà à quoi on a eu affaire toute l'année 2019. Cette brutalité, cette barbarie pour des gens qui demandaient quelque chose dont on a tellement besoin aujourd'hui. C'est-à-dire l'autonomie de la France pour tout ce qui est fabriqué d'essentiel. Alors je prends en plein cœur la misère depuis 20 ans dans mes romans, et mes romans et mes biographies. Je me dis, mais où va tout cet argent que l'on nous prend, 60% de ce qu'on gagne, nous est retiré, et que l'on ne redistribue pas, ou plus. Où va cet argent ? Il est accaparé par des institutions multipliées et des intermédiaires. 5% des gens les plus riches détiennent la richesse du monde. Tout le monde le sait. Pourtant, où sont ces gens en temps de guerre? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont donné quelque chose? Rien du tout. Ils ont donné pour l'incendie de Notre-Dame, Paris, toujours Paris, mais là, personne ne donne ces milliards, ces millions. Il n'y a rien du tout donné. À part dans leurs maisons et châteaux où ils se cachent, peut-être qu'ils existent encore, je ne sais pas. Ils attendent, mais en attendant, eh bien, c'est encore les petits qui les nourrissent. Le virus Covid-19 est le rejeton de la mondialisation. À qui nos sociétés ont vendu leurs âmes? Alors, comme il n'y a plus d'argent pour la vie, l'éducation et la santé, bon, il n'y a plus d'argent pour tout ça, eh ben, la mort est appelée à la rescousse. Une mort que l'on n'autorise même pas à être accompagnée. On a muré les EHPAD comme l'ont fait, et c'est l'historienne qui parle, les nazis avec les établissements d'handicapés et de santé. Autrefois, pendant la Seconde Guerre mondiale. Chut, 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 nos trésors meurent solitaires. Personne ne dira jamais ce qui s'y est passé là-bas. On leur donne même pas d'antibiotiques, on ne leur donne rien, on les laisse mourir avec du Rétrovil, qui est un sorte d'anesthésiant, et on attend qu'ils meurent. On ne les réanime pas, on n'essaie pas de les sauver. C'est incroyable ce qui se passe dans nos EHPAD. C'est incroyablement notre honte encore. On ne tient compte de leur mort que depuis peu. Même encore hier soir, nous sommes le 23 avril, hier soir, le nombre de morts en EHPAD n'était encore pas signifié. Un jour sur deux ou de temps en temps. Ah bah oui, parce que à cause de ces morts-là, on dépasse les 20 000 morts. Avant même, leur nom n'avait pas d'importance. Au départ même, on disait rien. Et puis, les morts chez eux, parce qu'il y a des morts du Covid, qui meurent chez eux, eh bien là non plus, ces gens ne sont pas comptés, ils ne comptent pour rien. Honte encore. J'ai entendu, il y a 4 semaines, un président de la République d'une république naufragée promettent des primes aux soignants, aux soignantes et aux gens qui n'ont pas le droit d'être confinés, comme aux caissiers, aux caissières. Ils n'ont même pas un petit temps pour eux pour reprendre souffle. Eh bien, ces primes, personne ne les a encore. Et là, hier, on dit encore que les caissières, la grande distribution, ne va pas donner de primes, ni aux caissiers, ni aux gens dans les magasins. Et peut-être que nos soignants auront une prime comme ça au lieu d'avoir une augmentation de salaire. Savez-vous qu'un infirmier ou une infirmière, par nuit, elle ne gagne que 90 centimes de l'heure qu'elle fait. Savez-vous que ces soldats sans armes et sans armure contre un ennemi meurtrier ne dépassent jamais un salaire de 1600 euros net, même après plusieurs années de contrat CDD en hôpital public, qui sont parfois des contrats journaliers, au jour le jour. C'est incroyable, hein ? Alors, certains applaudissent ces gens-là. C'est trop tard. Notre pays est devenu sous-développé. Regardons-nous en face. Combien nous reste-t-il chaque mois après charges, impôts, TVA ? Pour combien travaillons-nous vraiment ? Regardons le reste, ce qu'il nous reste. Ce qui reste de ce saccage politique, des politiques qui osent encore promettre et diriger notre pays. Nos soignants sont masqués tissus, issus de vieilles culottes. Ils sont chaussés de bottes de jardin. Ils sont habillés de sacs poubelles ou de vêtements de pluie. Et leurs yeux sont protégés par des masques de plongée. Et nous plongeons vers le néant. Ces soignants à qui on a demandé de ne pas sauver certaines catégories de malades. Le texte de l'ARS est en ligne en PDF, on peut le lire, c'est clair et net, mais surtout les émissions des journalistes, les émissions télévisuelles, où on voit des gens arriver qui ont 75, 79 ans, qui nous parlent en toussant un tout petit peu, et ces gens, on les voit partir en soins palliatifs, on ne fait rien pour eux, même pas un antibiotique, rien. Alors qu'on sait qu'un antibiotique fonctionne. Je parle du Zitromax. Qui se révolte de cela ? Là maintenant, nous devons, si nous attrapons ce virus, rester chez nous avec un Doliprane comme bonbon de consolation et attendre le pire ou pas, alors même que certains médicaments pourraient nous être proposés. Les gens encaissent bouche bée tous les soirs les paroles d'un menteur, le directeur général de la santé, qui par des jeux de sémantique nous parle des morts sans en dire un mot de vrai et de véritable, rien de majuscule. Pas un mot de compassion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pas un mot de compassion. Les journalistes, très peu non plus, n'ont pas de compassion. C'est normal de mourir quand on a 80 ans ou 70 ans. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que c'est normal qu'on meure à 18, à 6 ans, à 20 ans, à 80. Quand on est malade, on doit être soigné. Il n'y a pas une larme dans les mots de cet homme qui égrène les morts, pas un remords, et tout continue le lendemain. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Tous les lendemains recommencent et tous les lendemains ressemblent à hier. Il n'y a quasiment personne de testé. Il n'y a toujours pas de masque, il n'y a pas de médicaments, d'antibiotiques, d'antiviraux, et dès qu'un professeur, un médecin généraliste essaie quelque chose, aussitôt il est rappelé à l'ordre, tout ça parce qu'on veut vacciner un jour la population. Tout ça parce que on veut que ce soit certains laboratoires qui aient ou le médicament ou le vaccin, on a déjà décidé quelque chose qui est hors de notre portée, nous les communs des mortels. Les politiques, l'éparpillement des pouvoirs en France, après avoir pillé nos valeurs humaines, aujourd'hui nous ont tués et nous tuent encore. Déjà tués depuis longtemps, en tant qu'humains solidaires et fraternels. Nous sommes moribonds. Et ce virus n'existe que pour nous montrer la vérité. La littérature, mais seulement si elle suit les battements de notre cœur aimant, devra, parce que vous me demandez qu'est-ce que je ferai après ce confinement de mes écrits, la littérature devra se réécrire bientôt. Mais il faudra que nous soyons forts pour combattre les instances culturelles technocrates qui nous gouvernent. Nous aussi les écrivains, évidemment, et ont laissé proliférer parmi nous des prédateurs et des prédatrices. Il y en a partout. Même à bout de souffle, dans ce temps où on a laissé les tabacs ouverts mais où on a fermé les librairies, ne l'oublions jamais, un manuscrit a besoin d'amour et de tendresse pour pour survivre. Prenez soin de vous et de vos mots, chers tous, et à bientôt.